Vous connaissez sans doute cette fameuse boutade de Martin Luther. Si la fin du monde était demain, je planterais un arbre aujourd'hui. Ou alors la réponse d'un père à son fils qui lui demandait « Papa, est-ce que la fin du monde est proche ?» Réponse du père « Passe d'abord ton bac, mon fils. » Vous savez que certains annoncent la fin du monde pour le 21 décembre prochain. Ils affirment que le calendrier Maya se termine, donc s'arrêterait à cette date-là. Et cela semble suffire pour croire donc à l'Apocalypse pour ce jour-là. Il s'appuie aussi sur des prétendues prophéties dont les sources sont la plupart du temps invérifiables et, je dirais, dont l'acuité est proche de l'horoscope, c'est-à-dire qu'elles sont tellement vagues et généralistes qu'elles peuvent se vérifier en extrapolant n'importe quel fait. Ils affirment par exemple que la planète Nibiru, en orbite autour du Soleil, rentrera en collision avec la Terre le 21 décembre. Bon, on sait que les météorites existent, n'est-ce pas? Et on sait aussi qu'il y a 65 millions d'années, l'une d'elles, mesurant environ 15 km de diamètre, est tombée sur la Terre, creusant d'énormes cratères au Mexique et, paraît-il, causant l'extinction des dinosaures et d'une foule d'autres espèces animales via le changement climatique qu'elle a provoqué. Cela dit, nos scientifiques aujourd'hui, nos experts en astronomie, ceux qui surveillent notre espace interplanétaire, ne connaissent pas Nibiru. Nibiru semble être une planète uniquement imaginaire dans la tête de certains. Il y a aussi des rumeurs qui indiquent que le 21 décembre 2012 coïncide avec un alignement planétaire exceptionnel. Bon, je ne vais pas énumérer toutes les rumeurs qui tournent autour de cette date. Il faut tout simplement dire que ces prophéties concernant la fin du monde ne datent pas d'aujourd'hui ni d'hier. Des illuminés, des faux prophètes, des astrologues, et des gens qui aiment s'amuser avec ces choses, il y en a toujours eu, il y en aura encore. En fait, on sait que depuis la chute de l'Empire romain, il y a eu des dizaines et des dizaines de prophéties annonçant la fin du monde. Prophéties qui se sont succédées les unes après les autres sans qu'elles aient été suivies d'effets. Et puis, sachant que les gens sont avides de sensationnels, ou hantés par ces questions eschatologiques, certains, bien sûr, ne se privent pas d'exploiter, d'en tirer profit, n'est-ce pas, en diffusant toutes sortes de rumeurs sur la fin du monde, ou même en produisant des films qui attirent, comme on le sait, pas mal de personnes, pas mal de spectateurs qui aiment se faire peur. Il y en a même au sein du christianisme, qui se mettent aussi à spéculer sur la date de la fin du monde, en faisant la sourde oreille aux paroles de Jésus qui disait ceci, « Ce jour ou cette heure, nul ne les connaît, ni les anges du ciel, ni le Fils, personne sinon le Père. » Ou alors qui disait juste avant son ascension, « Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre main. Vous n'avez pas à connaître les temps et les moments que le Père a fixés. » Que dit la Bible sur la fin du monde? Donne-t-elle des précisions sur les événements de la fin des temps? Oui. Oui, la Bible mentionne un certain nombre d'éléments relatifs à ces temps de la fin, avec comme événement central, attendu, le retour de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. D'ailleurs, Jésus lui-même en a parlé à ses disciples, non pas pour qu'ils paniquent, mais pour qu'ils vivent dans cette attente patiente du retour du Seigneur, qu'ils aient un comportement digne de lui pendant qu'ils sont sur cette terre et qu'ils soient toujours prêts. Car cette attente du retour du Seigneur doit avoir des conséquences directes sur notre comportement ici dans notre monde, dans notre société. Elle doit éveiller notre foi, notre espérance, nous rendent toujours vigilants. Alors comment attendre le retour de Jésus Et comment s'y préparer? Je vous propose de lire encore, nous avons déjà lu les 13 premiers versets du chapitre 13 de Marc, où on voit qu'après un premier portrait général de ce qui va se passer avant son retour, Jésus dit ensuite beaucoup d'autres choses. Et je vous propose de lire à partir du verset 14, où il dit ceci, « Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie là où elle ne doit pas être, que celui qui lit fasse attention, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas et n'entre pas pour prendre quelque chose dans sa maison, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que ces jours n'arrivent pas en hiver, car la détresse en ces jours sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde que Dieu a créé jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Et si le Seigneur n'avait abrégé ces jours, personne ne serait sauvé. Mais il les a abrégés à cause des élus qu'il a choisis. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais dans ces jours, après cette détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. On passe au verset 32. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc. Car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je le dis à tous. Veillez, veillez. Au début du chapitre, Marc nous dit que Jésus sortait du temple en compagnie de ses disciples. Ceci attire l'attention du Seigneur sur la splendeur et la magnificence de l'édifice, du bâtiment, de l'ouvrage. Maître, regarde quelle pierre et quelle construction. C'était effectivement un édifice somptueux avec sa façade dorée qui reflétait la lumière du soleil, avec d'énormes pierres taillées, d'énormes colonnes magnifiques, des voûtes admirablement sculptées. Rien ne paraissait plus stable aux yeux des Juifs que ce beau bâtiment qui unifiait le peuple et autour duquel il vivait sa foi. Édifice qui était le symbole de la présence de Dieu au sein du peuple d'Israël. Et pourtant Jésus leur dit que leur beau bâtiment ne restera pas debout. Il sera complètement rasé. Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne sera renversée, dit Jésus. Cette prophétie de Jésus laisse les disciples stupéfaits et les incite à vouloir en connaître davantage sur ces événements-là. Ils marchent, ils arrivent au mont des Oliviers qui se trouve en face du temple et ils demandent à Jésus de leur dire le moment et les signes annonciateurs de ces choses-là. Et en réponse, Jésus révèle plusieurs signes et notamment trois étapes concernant ces temps de la fin, trois étapes qui vont précéder son retour glorieux sur cette terre. De grandes persécutions, des faux Christ et le bouleversement de l'univers. Mais en révélant cela, Il veut surtout leur faire comprendre comment ils doivent vivre leur vie chrétienne pendant cette période avant son retour, cette période d'attente. Dans une attitude d'attente active, en discernant ce qui se passe autour et en restant toujours vigilant. Premier signe annonciateur du retour imminent du Christ, de grandes persécutions. Vous avez remarqué sans doute l'expression du verset 14, l'abominable profanation. Cette expression a été reprise du livre de Daniel. Daniel annonçait la venue d'un roi qui commettrait un sacrilège aux yeux du peuple d'Israël, la profanation du temple de Jérusalem. Et Daniel a prophétisé que ce roi persécuterait le peuple de Dieu aussi. Dans Daniel, chapitre 9, verset 27, nous lisons que le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Et au chapitre 11, verset 31, il annonce que des troupes profaneront le sanctuaire, feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Cela veut dire qu'il y aurait donc un temps très difficile pour le peuple d'Israël, un temps de désolation pour Jérusalem et le peuple juif. D'ailleurs, l'apôtre Paul fait référence aussi dans sa deuxième lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, je cite, « à l'homme impie, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Or, on pense que cette prophétie de Daniel s'est accomplie lorsqu'en 168, 167, 168, avant Jésus-Christ, Antiochos IV Épiphane a envahi Jérusalem et a effectivement souillé le temple de Jérusalem en offrant des sacrifices païens sur son autel. Et certains disent même qu'il a offert un porc sur l'autel du temple en sacrifice. Mais ici, au verset 2, il semblerait que Jésus était en train de révéler aux disciples un autre événement pénible pour les Juifs. La destruction du temple de Jérusalem par les Romains quelques dizaines d'années plus tard. On sait qu'en 66 après Jésus-Christ, les Zélotes, qui étaient un parti politique juif, se sont rebellés contre l'occupant romain, ce qui a provoqué un conflit sanglant, un conflit terrible, durant lequel ce que Jésus dit ici s'est effectivement réalisé. En 70, les armées romaines du général Titus ont mis le feu à Jérusalem et ont détruit le temple dans lequel ils ont eux aussi offert des sacrifices païens. Et l'historien Flavius Joseph rapporte que plus d'un million de Juifs, déjà à cette époque, plus d'un million de Juifs ont été tués et que 100 000 ont été faits prisonniers. Donc c'était une période terrible pour le peuple d'Israël, une période terrible, difficile. On sait aussi que l'empereur Adrien a élevé plus tard, dans les années 130-131, au sommet de la colline où le temple se trouvait, un temple à un dieu païen, à Jupiter, temple qui a été détruit plus tard par Constantin, quelques années plus tard donc. Et on sait qu'en 637, il y a eu les conquêtes d'Omar, et ses successeurs ont construit le dôme, n'est-ce pas, le dôme du rocher ou la mosquée d'Omar, qui est toujours bien visible au loin comme un défi lancé au peuple d'Israël. Donc on peut penser que Jésus fait référence à tous ces événements-là, à toutes ces choses. Mais probablement les paroles de Jésus ici ont aussi une portée encore plus lointaine. Jésus dit à propos de cette abominable dévastation que jamais il n'y en aura de jour aussi terrible, de jour aussi terrible de pareille souffrance. Si le Seigneur n'avait pas décidé, dit-il, d'abroger ces jours, pas grand nombre ne subsisterait. C'est-à-dire l'intensité de la souffrance durant ces quelques jours. Le livre de l'Apocalypse parle de cela, bien sûr, en utilisant des images d'animaux, de bêtes, des images symboliques. Et il parle d'une bête qui accomplira des signes miraculeux. Il dit au chapitre 13, à partir du verset 14, « Par les signes miraculeux qu'il fut donné d'accomplir au service de la première bête, elle égarait tous les habitants de la terre. Elle leur demandait de faire une image de la bête qui avait été frappée de l'épée et qui était de nouveau vivante. Il lui fut même donné d'animer l'image de la bête et l'image se mit à parler et elle faisait mourir ceux qui refusaient de l'adorer. » On peut donc sérieusement penser qu'un jour, tous ceux qui n'adoreront pas cette bête, et dans d'autres passages bibliques, cette bête est appelée l'Antichrist, tous ceux qui n'adoreront pas cette bête seront tués. Il y aura donc une grande persécution. Une persécution viendra et énormément de chrétiens probablement subiront aussi les conséquences. Ce seront des jours très difficiles pour le peuple de Dieu sur la terre. On sait que ces dernières années, le nombre de chrétiens persécutés dans le monde a considérablement augmenté. On parle de plus de 200 millions de chrétiens persécutés dans le monde et surtout dans les pays où l'islam est la religion principale. Et d'ailleurs, on le voit bien, le printemps arabe est en train de devenir l'hiver des chrétiens. Les chrétiens souffrent terriblement, doivent se cacher, doivent fuir même le pays. D'autre part, il ne faut pas se voiler la face, il y a des gens qui veulent islamiser la planète, et obliger tout le monde à se soumettre à la loi islamique, à la charia. On le voit non seulement au nord du Nigeria, où il y a beaucoup de chrétiens. Le Nigeria est le pays probablement le plus chrétien au monde. Dans ce pays au nord, on veut obliger les chrétiens à suivre la charia. Mais on le voit aussi en Europe. Dans certaines villes en Europe, il y a des gens qui veulent obliger les Européens à suivre la charia. Ceci dit, dans ce passage, Jésus nous dit que nous avons une grande consolation. Il dit au verset 20 qu'il a réduit le nombre de ces jours terribles à cause de ses élus, à cause de ses enfants, à cause de ceux qui lui appartiennent. Cela veut tout simplement dire que Dieu va permettre certaines choses comme il a permis jusqu'à maintenant, mais que Dieu contrôle l'histoire. Nous ne savons pas quelle est la raison de ces souffrances. Nous pouvons sans doute retirer des leçons de ces persécutions. D'ailleurs, dans ces pays persécutés, l'évangile ne s'arrête pas. Les gens continuent à accepter le Seigneur. Mais tout ça veut dire tout simplement que Dieu a un contrôle sur l'histoire. Il contrôle l'histoire, il met un frein au mal qui ravage la terre à cause de l'amour qu'il a pour ses enfants. Jésus dit d'ailleurs qu'il ne veut pas qu'un seul de ceux qu'il a choisis ne se perde. Les chrétiens connaîtront sans doute encore d'autres persécutions terribles, sévères, mais le Dieu bon et parfait contrôle l'histoire et conduit les événements à son terme selon le plan qu'il a choisi pour son Église sur cette terre. Le deuxième signe annonciateur, après cette grande persécution, des faux Christ et des faux prophètes viendront semer la zizanie, même au sein de l'Église. Il en avait déjà parlé au verset 6, quand il dit « Car plusieurs viendront sous mon nom disant « C'est moi !» et ils séduiront beaucoup de gens. » Et maintenant, au verset 21 et 22, il poursuit en disant, « Si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus, s'il était possible. » Ces faux Christ essayeront de se faire passer pour le Christ, pour le Messie, n'est-ce pas? Et ce qui est terrible, c'est qu'ils seront capables de faire des miracles et d'accomplir des prodiges éblouissants. Peut-être que certains d'entre nous pensaient que les miracles venaient simplement du Saint-Esprit. Ces gens-là seront capables de produire des miracles, c'est le Christ qui le dit. Leur but est garer les gens et les détourner de la foi, telle qu'elle nous est présentée dans l'Évangile. Quand on sait que les gens sont friands de ces choses, même dans les milieux chrétiens, n'est-ce pas, il y a des gens qui courent après les miracles. On le voit, il suffit qu'il y ait un prédicateur nommé qui vient quelque part annoncer qu'il y aura des miracles, il aura des milliers de personnes devant lui. On voit le danger que certains courent, n'est-ce pas? Seront-ils capables de discerner ce que vient de Dieu et ce que vient du diable? Les miracles opérés par le Saint-Esprit et ces signes opérés par le diable, qui a aussi une certaine puissance, seront-ils capables de prendre conscience que le diable n'est jamais loin des choses accomplies par l'Esprit de Dieu? De tout temps, il y a eu des faux prophètes qui prêchaient ce que les gens voulaient bien entendre. Le bonheur, la réussite. Ces dernières années, c'était l'évangile de la prospérité. Si tu n'as pas une Mercedes, tu n'as pas le Saint-Esprit. Si tu vis avec des difficultés matérielles, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit, affirme-t-il. Si Dieu ne te guérit pas, c'est parce que tu n'as pas la foi. Et là, c'est très, très grave, n'est-ce pas? Parce que cela veut dire que l'apôtre Paul n'avait pas la foi, qu'Étienne, le premier martyr qui a été tué, n'avait pas la foi, et beaucoup d'autres exemples dans la Bible. Ce sont des faux prophètes qui prêchent un autre évangile qui n'est pas celui du Christ. Le Christ qui disait à ses disciples, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, des vicissitudes, des difficultés, mais ayez bon courage, j'ai vaincu le monde. » Il nous l'a dit, n'est-ce pas? Il nous l'a dit. De nos jours, la liste des faux prophètes et faux messies est longue. Il n'y a qu'à voir les prédictions de la fin du monde par des hommes renommés, même dans le milieu évangélique. Prédictions toutes fausses, puisque le Christ a dit que personne ne connaîtra le jour. Personne. Dieu seul connaît ce jour de son retour. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il leur dit, soyez sur vos gardes, que personne ne vous séduise. Ces enfants ne peuvent pas suivre un autre maître que lui. Ces enfants ne peuvent pas suivre un autre évangile que celui qui est dans la Bible, la parole de Dieu. Jésus dit que ceux qu'il a choisis, personne ne peut les arracher de sa main. Il dit, mes brebis ne périront jamais et personne ne pourra les arracher à ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les arracher à la main de mon Père. Si ces deux événements sont des signes qui s'étalent sur de longues périodes, le troisième signe est bref et aura lieu juste avant le retour en gloire de Jésus-Christ, le bouleversement de l'univers. Donc vous voyez que ces rumeurs, ces prédications ont quelque part un fondement, sauf que les gens exploitent ça d'une manière outrancière, n'est-ce pas? Le bouleversement cosmique est annoncé aussi par les prophètes, et notamment par le prophète Ésaïe, au chapitre 13, où il dit « Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Le soleil s'obscurcira, dès son lever, et la lune ne fera plus luire sa clarté. » Et l'Apocalypse, au chapitre 6, verset 12, nous le décrit ainsi « Puis je vis l'agneau ouvrir le sixième sceau, et il y eut un violent tremblement de terre. Le soleil devint noir comme une toile de sac. La lune tout entière devint rouge comme du sang. Les étoiles du ciel s'abattirent sur la terre, comme font les fruits verts d'un figuier secoué par un gros coup de vent. Le ciel se retira comme un parchemin qu'on enroule, et toutes les montagnes et toutes les îles furent enlevées de leur place. » Mais ce bouleversement de l'univers, ce bouleversement cosmique prépare quelque chose de nouveau. Et c'est ça le plus important, c'est le renouvellement de toutes choses, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Nous lisons dans l'Apocalypse, toujours chapitre 21, « Puis je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Alors celui qui siège sur le trône déclara, « Voici, « je renouvelle toutes choses. » Et il ajouta, « Écris que ces paroles sont vraies et entièrement dignes de confiance. » Le renouvellement du ciel et de la terre. Et après que ces événements se soient produits, il y aura l'apothéose, le retour glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Il paraîtra sur les nuées, dit le verset 26. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges rassembler ses élus des quatre coins de l'horizon, d'un bout à l'autre de l'univers. D'après ce verset, le retour de Jésus se fera fait en deux temps, n'est-ce pas? Jésus apparaîtra sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire, comme il le dit. Tout œil le verra dans sa magnificence. Donc, il n'y a aucun moyen de rater le retour de Jésus. Tout œil le verra. Et tout le monde ne pourra faire autrement que reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur de toutes choses, que son pouvoir, sa puissance et sa gloire sont au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Et il enverra ses anges et rassemblera tous ses élus des quatre coins du monde. Donc aucun ne sera oublié. Aucun de ses élus ne sera oublié. Ce qui est important à retenir dans cet enseignement, et ce n'est pas facile en 30 minutes d'expliquer tout ce chapitre, c'est d'ailleurs pour cela que j'ai sauté quelques versets. Je crois que ce qui est important à retenir dans cet enseignement de Jésus, c'est surtout sa conclusion, à partir du verset 32. Et c'est d'ailleurs pour cela qu'il dit à plusieurs reprises, « Soyez sur vos gardes, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. » Et je crois que l'objectif réel de l'enseignement de Jésus est là, que ses disciples, finalement, puissent vivre dans la reconnaissance de l'accomplissement du plan de Dieu dans ce monde, qu'ils puissent voir que les choses qui arrivent sur notre planète n'échappent pas au contrôle de Dieu. C'est le déroulement d'événements que Dieu a prévus, mais qu'ils soient vigilants et qu'ils se tiennent toujours prêts à tout moment. Le fait de ne pas connaître le jour de son retour doit nous pousser à être constamment sur nos gardes, en éveil. Mais rester vigilant, veiller, se tenir prêt, ne veut pas dire tout laisser tomber, nos responsabilités, nos occupations, nos devoirs, et aller sur les montagnes attendre le retour du Christ. Au contraire, nous devons accomplir notre mission fidèlement jusqu'au bout. Ceux qui n'ont pas passé le bac, passez votre bac. Plantons des arbres, comme Martin Luther nous suggère. Accomplissons nos tâches, nos devoirs dans la société. Accomplissons notre tâche en tant que chrétien, en tant qu'Église dans notre société. Et c'est là où Jésus veut en venir. Il nous donne suffisamment d'indications pour que nous puissions discerner l'époque dans laquelle nous vivons et l'époque où il reviendra. Mais il nous laisse aussi suffisamment dans le flou, n'est-ce pas, pour que nous ne laissions pas aller à la passivité. Le retour de Jésus nous pousse donc à être actifs dans cette attente et à ne pas nous endormir. Rester vigilant, c'est finalement demeurer attaché à lui et à sa parole. Et Jean, dans sa première lettre, nous dit « Mes enfants, demeurez attachés au Christ pour qu'au moment où il paraîtra, nous soyons remplis d'assurance et que nous ne nous trouvions pas honteux loin de lui au moment de sa venue. » S'il arrive un dimanche matin, où nous trouvera-t-il, par exemple? Préparons-nous à la rencontre avec le Seigneur, avec ce Jésus qui est vivant. Et comme dit l'apôtre Paul à Tite, celui qui vit pour lui, c'est-à-dire le chrétien qui vit pour lui, dans le siècle présent, selon sa sagesse, la justice et la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, vivant pour lui dans la justice, la piété, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Amen.